Vous êtes sur RTL.
Et 18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour 2 heures d'infos avec la rédaction et avec vous au 32-10. Ce soir à la une, la France discute avec les talibans. C'est une première. Un échange a eu lieu au Qatar avec les islamistes. Pendant ce temps-là, au lendemain de l'attentat meurtrier, 170 morts d'après les médias US, eh bien plus de 5000 personnes attendent encore dans l'aéroport de Kaboul. Des milliers d'autres patientent à l'extérieur. Paris et Washington vont-ils pouvoir exfiltrer ces Afghans en danger? Le temps presse. Dans RTL Soir, nous allons vous expliquer pourquoi le Quai d'Orsay négocie avec les talibans et nous essaierons de déterminer si le pont aérien peut être maintenu très longtemps. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Rodéo mortel hier à Toulouse, près du Mirail, une femme de 77 ans tuée. Sa meilleure amie confie son désarroi au micro de RTL. Des prix qui ont grimpé de plus de 15% en 2 ans et demi. Le mois prochain, cuisiner et se chauffer au gaz coûtera encore plus cher. Réaction et explication dans un instant. Et puis les derniers jours fous du mercato. On attend toujours la fumée blanche entre Madrid et Paris. Cristiano Ronaldo, lui, quitte la Juventus Turin. Il retourne à Manchester United.
Dans un quart d'heure dans RTL Soir, ce débat à 6 jours de la rentrée scolaire. Le chemin de l'école est-il vraiment sans risque? L'école protège, a assuré le ministre Jean-Michel Blanquer sur RTL. L'épidémiologiste de référence, Dominique Costagliola, lui répondra. Et vous, les enseignants, les parents, vous allez avoir la parole sur RTL. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, la folie Messi à Reims, J-2. Avant Reims-PSG, les premiers pas en mondovision de la légende en Ligue 1. Le marché noir se régale d'ailleurs. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière. Vous l'entendrez, vos habitudes télé du week-end seront quelque peu bousculées. Et puis à 18h40, c'est nouveau. Chaque vendredi, on va défaire les régions avec nos reporters aux quatre coins de la France. Un rendez-vous positif, curieux, instructif, au plus près de chez vous. Ce soir, une prof face à la drogue à Marseille, la solidarité face aux incendies, un dîner chez un chef étoilé en bord de Loire et du jazz sous les pommiers en Normandie. À 19h15, ils refont la France avec Amandine Bégaud, ça aussi c'est nouveau le vendredi, ou comment les étrangers voient l'actu bleu, blanc, rouge. Tout au long de l'émission, bien entendu, des points sur le temps. Avec vous ce soir, Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
En un mot, la tendance.
On va pas changer d'équipe qui gagne, des nuages majoritaires au sud, des nuages au nord, du soleil au sud, avec des températures globalement de saison. Voilà, on y arrive.
On va y arriver. Rendez-vous à la fin du journal. Un quartier entre colère et tristesse. Près du Mirail à Toulouse, une femme de 77 ans, victime hier d'un rodéo urbain.
Elle traversait la rue quand elle a été percutée par un motard de 25 ans qui faisait des allers-retours dans le quartier. C'est alors qu'il s'apprêtait à faire une roue arrière qu'il a renversé la victime. Et c'est un document RTL ce soir. Le témoignage de sa meilleure amie, concierge dans son immeuble marité, effondrée et indignée après la mort de son amie.
C'est une excellente amie, excellente voisine. La tristesse, mais surtout très en colère contre ces abrutis. Jour comme nuit, ils le font, boulevard Eisenhower. Je ne comprends pas que la police n'intervienne pas plus souvent pour faire quelque chose, quand même. Il ne faut pas exagérer. On ne peut même pas marcher tranquillement. Alors qu'elle, elle marchait tranquillement sur le bord, là où se trouvent les piétons en général et les cyclos, et l'autre, là, il est venu la buter carrément. C'est affreux, c'est abominable, inadmissible. L'angoisse aussi, parce que je me dis quand même que c'est pas juste que ça lui soit arrivé. Elle venait d'avoir d'autres petits-enfants, des jumelles. Elle s'en occupait quand elle le pouvait. Elle faisait à peu près 1 heure de marche tous les jours. Une femme formidable, toujours gaie. J'ai du mal à imaginer que je ne la verrai plus.
Une tristesse et ras-le-bol aussi face à ce phénomène des rodéos urbains. Document RTL et témoignages recueillis par Benjamin Pelsi.
RTL Soir.
Entre retour au calme et urgence sur l'aéroport de Kaboul après l'attentat qui a fait 170 morts selon un dernier bilan communiqué par les médias américains, les opérations d'évacuation se poursuivent.
Dans l'urgence en effet, car il reste 5400 personnes à exfiltrer et seulement 4 jours avant le départ des forces américaines, Washington qui promet la poursuite des opérations jusqu'au dernier moment.
Dans le même temps, la France s'organise. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
Paris a d'ailleurs fait savoir cet après-midi que de premières discussions avec les talibans avaient eu lieu hier.
Oui, la France a envoyé l'un de ses anciens ambassadeurs en Afghanistan au Qatar, où les talibans ont depuis plusieurs années une représentation officielle. Il s'agissait pour François Richier de discuter dans le détail, selon les mots d'un porte-parole taliban, de la situation de l'aéroport de Kaboul, discuter à la fois des dernières heures du pont aérien, mais aussi de la possibilité pour les Afghans en règle de sortir du pays au-delà du 31 août et du retrait américain. La France aimerait pouvoir mettre en place des opérations humanitaires pour aider les Afghans menacés à quitter le pays au-delà de mardi via des vols commerciaux, puisqu'il n'y aura plus de militaires étrangers. C'est la première fois en effet que notre diplomatie a un contact direct avec les talibans depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Des discussions ont également eu lieu avec eux à Kaboul.
Et pour ce qui est du pont aérien mis en place par la France, Christophe, là on est vraiment dans les dernières heures des opérations.
Oui, il est 20h30, un peu passé maintenant à Kaboul. La nuit tombe. Pour tout vous dire, il est très difficile d'avoir des informations. Oui. Ni le Quai d'Orsay, ni le ministère des Armées ne répondent à nos questions. Ça semble confirmer que les opérations françaises d'évacuation sont en train de se terminer. D'après nos informations, le convoi de 20 bus qui devait rejoindre hier l'aéroport pour être évacué a dû rebrousser chemin. Toutefois, un avion français a pu rejoindre Abu Dhabi. Ses passagers sont attendus tôt demain matin à Roissy. Et puis, vous le disiez, les Américains, eux, ont annoncé qu'ils continueraient d'évacuer jusqu'au dernier moment.
Les Américains qui d'ailleurs font savoir que la mission d'évacuation en cours fait toujours face à des menaces précises et crédibles. Merci Christophe Decroix, chef du service étranger de RTL.
RTL, 18h06, un sale coup maintenant pour le porte-monnaie. Les abonnés aux tarifs réglementés du gaz vont voir leur facture grimper de 8,7% le mois prochain.
Une hausse d'une ampleur inédite selon la Commission de régulation de l'énergie. On va voir pourquoi dans un instant. Mais d'abord, la réaction d'Antoine Autier, responsable des études à l'UFC Que Choisir.
On peut légitimement être inquiet. Cette hausse au mois de septembre vient prolonger une hausse déjà importante. C'est plus 10% en juillet, plus 5% au mois d'août. Donc on va dire que là, on est sur 3 mois où on assiste à une explosion. Généralement, quand on regarde ces années passées, on assistait à une baisse des tarifs l'été et une hausse l'hiver. Là où on a eu un pic de consommation de gaz. Là, c'est vrai que c'est inédit d'avoir une hausse aussi importante au cœur de l'été. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que les éléments structurels qui aujourd'hui expliquent la hausse des prix soient toujours en place en fin d'année. Il faudra se chauffer. Là, si on a encore des hausses tarifaires, l'impact sur la facture sera très important.
Le responsable des études à l'UFC Que Choisir avec Marie Guerrier pour RTL.
Alors, on va essayer de comprendre. Bonjour. Bonsoir même, Pierre Herbulot.
Bonsoir.
Pourquoi une telle augmentation ?
Alors, il y a plusieurs explications, mais c'est avant tout une conséquence de la reprise économique mondiale de ces derniers mois. Les demandes en gaz explosent partout et donc les prix se tendent. D'autant que les niveaux de stockage européens sont extrêmement bas. Il faut les reconstituer rapidement pour l'hiver et quand on veut aller plus vite, on paye plus cher. Enfin, il faut ajouter à tout ça des problèmes structurels, de la maintenance d'infrastructures de plusieurs grands gazoducs, Yamal et Nord Stream notamment, qui relient la Russie à l'Allemagne. C'est le 5e mois de hausse consécutive du prix du gaz, des hausses parfois élevées, 5% en août, près de 10% en juillet. En France, 2 800 000 consommateurs sont concernés par ces augmentations de prix à répétition, ceux qui ont conservé leur contrat chez le fournisseur historique Engie et qui sont donc encore aux tarifs réglementés, des tarifs fixés par les pouvoirs publics amenés à disparaître à l'été 2023.
Explication de Pierre Herbulot pour RTL.
L'appel aux jeunes alors que les primo-injections patinent en cette fin d'été. Ces messages lancés par des sportifs, faites-vous vacciner. Appel lancé notamment par les joueurs de l'OM dans cette vidéo dévoilée aujourd'hui.
En ce moment, vous le savez, la situation sanitaire est très inquiétante.
Moi, je ne suis pas venu pour faire mon séjour dans un stade vide.
Car on a besoin de vous.
Et pour ça, la solution la plus simple, c'est la vaccination.
L'objectif est clair, convaincre les plus jeunes d'aller se faire vacciner. Car en PACA, plus de 30% des 18-40 ans n'ont pas encore reçu d'injection. Et ce constat, Sophie Jousselin, il vaut pour l'ensemble du pays.
Absolument, les jeunes adultes, les 30-39 ans en tête, sont moins de 80% à avoir reçu leur première dose de vaccin. C'est à peine mieux chez les 20-29 ans. L'annonce du pass sanitaire par Emmanuel Macron les a quand même poussés à franchir le pas. Le taux de primo-vaccinés a augmenté de 45 à 50% depuis la mi-juillet. Mais ce n'est rien face à la progression chez les plus jeunes. Les 12-17 ans, certes seulement un adolescent sur 6 a reçu sa première dose, mais le chiffre a plus que doublé en 6 semaines, alors que pour eux, la vaccination n'est ouverte que depuis le 15 juin. Dans les tranches d'âge plus élevées, les meilleurs élèves, ce sont les 70-79 ans. Plus de 9 sur 10 ont reçu reçu leur première dose. En revanche, chez les plus de 80 ans, la situation est bien moins bien engagée. 15% n'ont toujours pas reçu une seule dose et le chiffre stagne. Pourtant, ce sont les personnes les plus à risque de faire une forme grave de la maladie.
Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL.
Et avant-hier, dans RTL Soir, vous l'avez peut-être entendu, le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, en avait appelé à Teddy Riner, la légende du judo antillaise, pour justement essayer de convaincre les jeunes antillais d'aller se faire vacciner. On sait qu'en Martinique et en Guadeloupe, la campagne ne décolle décidément vraiment pas. Après plusieurs contacts entre Alain Fischer et Teddy Riner ces dernières semaines, d'après nos infos, eh bien le judoka, multiple champion du monde et champion olympique, s'est aujourd'hui exprimé sur Twitter.
Oui, la situation sanitaire est toujours préoccupante en Guadeloupe et dans les îles, écrit-il. Le combat continue. Protégez-vous, protégeons-nous. Photo à l'appui de Teddy Riner face à un médecin.
Allez, une pause et dans un instant, dans ce journal, dans RTL Soir, l'espoir d'un dénouement peut-être là, ce week-end, dans le feuilleton Mbappé, 180 millions d'euros mis sur la table par le Real Madrid. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, 18h12, la suite de votre journal dans RTL Soir. Le numéro 5, porté notamment par Zizou, lui serait réservé. Il aurait même déjà trouvé une villa dans une banlieue chic de Madrid. Le transfert de Kylian Mbappé au Real, espéré d'ici 48 heures.
Ouais, tout semble se mettre en place. Mathias Valton, vous êtes à Madrid pour RTL. Pour le moment, les négociations sont toujours en cours, hein, avec le PSG.
Oui, même si plusieurs médias espagnols annoncent que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est imminent et que l'officialisation pourrait intervenir dans la soirée, il n'y a toujours pas d'accord entre le PSG et le club madrilène. De ce qu'a pu savoir RTL auprès du Real Madrid, les dirigeants parisiens n'ont pour le moment toujours pas répondu officiellement à la seconde offre de 180 millions d'euros transmise à 18h hier et par mail par les dirigeants du Real. On est donc toujours dans l'attente. Au sein de la Maison Blanche, on assure quand même être serein et persuadé qu'Mbappé va rejoindre la capitale espagnole avant la fin du mercato. Les dirigeants madrilènes espèrent d'ailleurs pouvoir officialiser l'arrivée de Kylian Mbappé et lui faire passer sa traditionnelle visite médicale au plus tard dimanche, avant qu'il ne rejoigne l'équipe de France à Clairefontaine. Au Real Madrid, les préparatifs en vue de sa présentation sont d'ailleurs déjà lancés et on espère pouvoir présenter le Français aux supporters madrilènes après la trêve internationale le vendredi 10 ou le samedi 11 septembre. Autre information importante révélée par le quotidien espagnol ABC, Mbappé pourrait signer un contrat de 6 ans avec le Real Madrid pour un salaire de 30 millions d'euros par an, le plus gros salaire jamais octroyé à un joueur dans l'histoire du Real.
Mathias Valton à Madrid pour RTL. Et décidément, à 4 jours de la fin du mercato, du très lourd enjeu, parce qu'au-delà du transfert de Kylian Mbappé, il y a aussi celui de Cristiano Ronaldo. Yeah. Ça, c'était l'entraîneur de la Juventus Turin qui avait acté ce matin le départ de l'attaquant portugais pour de l'équipe, de la Juve. Et on vient de l'apprendre, Manchester United officialise l'arrivée et le retour même de Cristiano Ronaldo dans ses rangs.
Effectivement, pour le portugais. Foot encore, le tirage au sort des phases de poule de la Ligue Europe, ce sera costaud pour Marseille.
Oui, face à l'Aladio Rome, à Galatasaray, au Lokomotiv Moscou. Difficile aussi pour Monaco contre le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et les Autrichiens de Sturm. Graz et puis Lyon sera opposé aux Glasgow Rangers, au Sparta Prague et aux Danois de Brøndby. Lyon sur le terrain ce soir, hein, quatrième journée de la Ligue 1 face à Nantes, match à suivre dans RTL Foot. Et puis on vous en parlait hier soir, Benjamin Mendy accusé de viol et d'agression sexuelle en Angleterre, le champion du monde a comparu devant un tribunal cet après-midi. Il a été placé en détention provisoire jusqu'à une prochaine comparution le 10 septembre prochain.
RTL 18h14, on vous le révélait ce matin sur cette antenne, l'inquiétude des renseignements territoriaux, les anciens RG face au risque de dérive sectaire chez les anti-vaccins et les anti-pass sanitaires.
Qui manifesteront encore demain, hein, 200 rassemblements annoncés. Une note confidentielle des renseignements donne donc l'alerte et ses craintes. Anne Le Hennaff, elles sont aussi partagées par les associations.
Oui, elles ont constaté ce phénomène dans les appels qu'elles reçoivent. Marie Drillon est la vice-présidente de l'UNADFI, l'Union des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes.
C'est clair que ça a beaucoup augmenté ces temps derniers, quoi. Une radicalisation des croyances anti-vax, anti-masque, complotistes, etc.
Et certains groupes existants ont adapté leur discours, se sont mis à parler du vaccin ou de la 5G. Mais il y a aussi, précise Marie Drillon, des groupes qui se sont créés sur Internet.
C'est plus des communautés qui s'enferment dans une croyance et qui se radicalisent dans leur croyance. Et là, le groupe commence à prendre de l'importance aussi. Quand il y en a un qui doute, il est récupéré par les autres, si vous voulez. Voyez, on est dans le mécanisme d'enfermement qui peut conduire à la rupture.
La note révélée ce matin par RTL le dit, complotisme et mouvements sectaires s'alimentent mutuellement dans le cadre d'une dynamique anti-système.
Anne Le Hénaff, merci.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Sans transition, la bonne nouvelle pour les propriétaires de Pablo, un chien de 2 ans qu'ils pensaient avoir perdu en Savoie. Jeudi dernier, ce couple de camping-caristes de retour d'Italie fait escale à Saint-Martin-de-Belleville. L'animal en profite pour aller se balader, mais ne revient pas. Ses propriétaires décident de rester dans les parages pour le retrouver, sans succès. Jusqu'à ce qu'une voisine de leur maison, du Gard, leur envoie une photo de l'animal. Il était revenu de lui-même, 380 km de distance. Vraisemblablement oui, alors le propriétaire est un peu sceptique. En tout cas, le chien est maintenant équipé d'un collier GPS.
Incroyable, voilà, des bonnes nouvelles dans ce monde de brutes. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant, Claire Delorme, dites-nous tout.
Alors ça sera comme je vous le disais, une France coupée en deux avec encore une matinée assez nuageuse pour la moitié nord. Ça sera même très nuageux de la Normandie vers la Bourgogne, la Franche-Comté, vers le Hauts-de-France, toutes les frontières du Benelux avec en prime quelques petites averses qui ne vont pas discontinuer toute la journée.
D'accord,
ça sera de manière très locale. Par contre, au fil des heures, eh bien, ces nuages vont finir par se morceler. On va quand même un petit peu voir le soleil qui sera présent d'entrée de jeu toute la journée pour la moitié sud et même pour la Bretagne et la basse Normandie. Par contre, au niveau du golfe du Lion, on aura un petit peu quand même de vent qui sera même assez vigoureux vers la basse et moyenne vallée du Rhône, quand même 80 km/h, et puis des développements de cumulus pourraient conduire à quelques averses et même au coup de tonnerre au niveau de la région PACA et de la Corse. Pour les températures en matinée, on est un petit peu frais quand même pour la saison, 7 à 12 degrés sur un grand quart nord-est, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16-20 degrés pour la Méditerranée, et les maximales sont également en légère baisse, 19 à 24 degrés sur une grande moitié nord et encore jusqu'à 27 voire 30 degrés pour la moitié sud.
Merci Claire. Une petite pause dans RTL Soir et ensuite le débat du jour. Malgré le variant Delta, la rentrée scolaire est-elle sereine? Oui, nous a expliqué le ministre Jean-Michel Blanquer ce matin sur RTL. Les médecins, eux, continuent de donner l'alerte. Nous allons nous interroger sur le risque potentiel pour l'ensemble de la population, pour nos enfants, avec l'épidémiologiste reconnu Dominique Costagli. Voilà, à tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier. RTL Soir.
Allez, 18h20, vous écoutez RTL. Nous sommes à 6 jours maintenant de la rentrée scolaire. Alors forcément, boule au ventre petit à petit pour les enfants, mais aussi cette année, boule au ventre pour les parents et les profs avec en creux. Cette interrogation, cette rentrée est-elle risquée? Risquée pour nos petits, mais aussi pour l'ensemble de la population. En clair, est-ce que le variant Delta va profiter du chemin de l'école pour s'infiltrer dans les familles? Ce matin, Jean-Michel Blanquer était l'invité de RTL. Le ministre de l'Éducation s'est dit très serein. Tout va bien se passer, nous dit-il en substance. Bonsoir Dominique Costagliola.
Bonsoir.
Vous êtes une épidémiologiste de référence, directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Vous faites partie de ces médecins qui ne partagent pas franchement la sérénité du gouvernement. Réécoutons Jean-Michel Blanquer, parce qu'il s'est montré très agacé lorsqu'on a évoqué justement les craintes des blouses blanches sur RTL.
Et j'ai vraiment une boussole, et cette boussole, c'est que l'intérêt de nos enfants, c'est d'aller à l'école, et qu'on cesse aussi de chercher à les angoisser avec parfois des débats qui sont pas les plus intéressants. Aujourd'hui, ce qui est important...
Les médecins sont dans leur rôle aussi.
Non, je pense pas que...
Des oiseaux de malheur, c'est
non,
ça
je, qu'on Non, dit. Je pense qu'il faut des interventions collectives. C'est important d'écouter le conseil scientifique, la haute autorité de santé, plutôt que le
Fontané.
Docteur X ou le docteur Y qui intervient sur
Fontané,
les
antennes. Quand même, vous le connaissez.
Non, mais bien sûr, mais je ne conteste
expertise.
Pas.
Ces mesures sont insuffisantes.
Je pense qu'aujourd'hui, le débat public sur ces questions gagne à être canalisé par des autorités collégiales, plutôt que d'avoir des débats scientifiques tous les jours à la radio qui créent de la contradiction et de la confusion.
Alors en clair, Dominique Costagliola, Jean-Michel Blanquer vous invite à ne plus venir vous exprimer à la radio sur RTL. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
D'abord, je pense que quand il a quand même reconnu dans cette intervention que les gens du conseil scientifique avaient le droit de s'exprimer. Et je ne crois pas que les gens qui interviennent dans les médias à propos de l'école disent des choses très différentes de ce qu'a écrit le conseil scientifique dans sa note qu'il a envoyée le 20 août, modifiée le 25, et qui a été publiée aujourd'hui.
Restez
peut-être sur... une certaine insistance au fond sur la mesure du CO2, l'aération, les filtres EHPAD d'une part, et puis d'autre part sur le fait d'avoir abandonné des tests systématiques deux fois par semaine pour l'ensemble du public des écoles, donc des tests salivaires pour que ce soit faisable. Il y a eu des expérimentations, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui montraient finalement un niveau d'adhésion suffisant pour que ça ait un impact. Je voudrais faire remarquer, par exemple, si on regarde la situation de nos voisins, au Royaume-Uni, en fait, l'épidémie, elle a décru. Donc, les gens en ont parlé quand ça a décru. Puis maintenant, ça remonte lentement, mais sûrement. On est à 38 000 cas par jour et un peu plus de 800 nouvelles hospitalisations par jour. Et on voit que les endroits où ça reprend et où l'incidence reprend, c'est justement en Écosse. Et qu'est-ce qui s'est passé en Écosse qui ne s'est pas passé dans les autres régions du Royaume-Uni ?
Les écoles ?
Les écoles ont repris déjà.
Alors, vous parliez des tests. 600 000 tests semaine promis par le gouvernement. On rappelle qu'il y a 13 millions d'élèves dans notre pays. Restez avec nous. On va essayer justement d'y voir plus clair sur les chiffres de l'épidémie. Là, aujourd'hui, en France, notamment chez les enfants et les ados, on va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Chez les enfants, le taux d'incidence a été multiplié par 20 en un an.
Oui, alors cela concerne les plus jeunes, les 0-9 ans. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, eh bien, on est à 129 cas pour 100 000. C'est d'ailleurs la seule tranche d'âge où le taux d'incidence ne faiblit pas. L'an dernier, exactement à la même époque, on en était, on s'en souvient, à 7 pour 100 000.
Chez les ados, on en est où, contamination, vaccination ?
Alors chez les 10-19 ans, on a une circulation également très intense du virus avec un taux d'incidence à 296. C'est quand même 35% de plus que la moyenne nationale, tous âges confondus. Mais tout de même, bonne nouvelle, ce taux est en baisse, moins 13% sur une semaine.
Merci Odile Pouget pour votre éclairage. On note aussi des différences entre certaines régions. Dominique Costagliola, Jean-Michel Blanquer ne veut pas de différence de rentrée scolaire entre les régions, hors Antilles bien entendu, en métropole. Mais il y a aujourd'hui un ado sur 100 à Marseille qui est positif au Covid.
En PACA, les taux, les mêmes taux qui viennent d'être donnés, c'est 312 et 731. Et ils sont pas en train, vous voyez, et c'est pas encore la rentrée. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a les mêmes mesures qui sont prises dans cette région-là que dans toutes les autres régions? C'est vraiment celle qui sort du lot et avec des taux absolument faramineux. Il n'y a jamais eu des taux aussi élevés depuis qu'on mesure avec suffisamment de tests.
Donc pour vous, il faudrait des différences de protocole entre les régions aujourd'hui?
C'est-à-dire, ce qu'on ne comprend pas bien dans le protocole qui a été mis en place, c'est comment est-ce qu'on passe de 2 à 3 ou à 4 et pourquoi ce n'est pas dicté. Si on prend l'exemple justement des Bouches-du-Rhône, on a à la fois des taux d'incidence élevés dans ces tranches d'âge-là, mais aussi une certaine tension à l'hôpital. Donc, on a les indicateurs qui sont plutôt au rouge et on décide que non, tout va bien.
On a des
C'est
parents
bizarre.
Probablement qui nous écoutent et qui s'inquiètent, Dominique Costagliola. En clair, quelle est votre crainte? Que la rentrée scolaire permette au virus de recirculer et notamment dans les familles? Ou est-ce qu'il y a aussi une crainte pour la santé de nos enfants? Parce qu'on a longtemps dit qu'ils n'étaient pas contaminants, pas franchement concernés par les formes graves. Alors, on découvre petit à petit qu'il y a entre 2 et 8% de Covid long chez des enfants d'après une étude britannique, ce qui n'est pas rien non plus.
Oui, je pense qu'on a transformé le fait que les enfants sont moins à risque de faire des formes cliniques importantes, symptomatiques, et puis même de devoir aller à l'hôpital, en « il n'y a pas de risque ». Mais le fait « moins à risque et il n'y a pas de risque », ce n'est pas la même chose. À l'heure actuelle, si on reprend toujours ces mêmes tranches d'âge, il y avait hier 74 enfants de 0 à 9 ans hospitalisés et 81 jeunes de 10 à 19 ans hospitalisés. Il y a les Covid longs dont vous avez parlé. Il y a aussi le syndrome d'inflammation multisystémique pédiatrique. Donc, il ne se passe pas rien. Simplement, effectivement, ça ne touche pas une grande proportion des enfants atteints. Ça, c'est vrai. Mais après...
Donc, il y a une question de bénéfice-risque aujourd'hui?
Disons, il y a le côté de pourquoi vouloir... Enfin, pourquoi ne pas s'inquiéter du fait qu'ils soient malades? On dit, c'est pas grave. Moi, je suis désolée, j'ai jamais envie que les enfants soient malades. Même pas grave. Vous voyez, c'est assez bête. Et par ailleurs, il se trouve, si on reprend l'exemple de la région PACA ou même du département des Bouches-du-Rhône, c'est aussi un département qui est parmi les départements les moins vaccinés. Et vous avez mentionné un peu avant dans le journal, notamment qu'il y a une fraction finalement encore assez importante des gens très à risque qui n'est pas vaccinée. Donc si vous refaites de la circulation du virus, vous allez refaire décontamination, et y compris, bien sûr, ça va mettre ces gens qui ne sont pas vaccinés dans une situation de risque. Dans un endroit, les Bouches-du-Rhône, où les hôpitaux sont déjà en tension. Donc il y a les deux aspects. Il y a le côté faciliter la circulation du virus avec les conséquences, disons, plutôt sur les gens très à risque. Et il y a le côté, mais pourquoi diable vouloir que ne pas éviter, si on peut, que les enfants soient malades, même si chez eux, les conséquences sont modestes.
On fait comment on laisse les écoles fermées,
non,
ou alors on adapte le protocole?
Ça, c'est aussi le côté de faire croire que les gens qui disent il faut faire attention...
Quand vous donnez l'alerte, soyons clairs.
Ils veulent fermer les écoles. Pas du tout, bien entendu qu'on ne veut pas fermer les écoles.
Quand vous donnez l'alerte avec d'autres scientifiques dans une tribune il y a quelques jours, votre idée n'est pas de dire il faut fermer les écoles, au contraire, il faut adapter le protocole. C'est ça le message.
L'idée, c'est de dire c'est très important que l'école soit ouverte, on est absolument d'accord, mais il faut simplement les sécuriser pour éviter qu'il y ait de la circulation du virus, et c'est vrai notamment à l'école communale, puisque par définition, à l'école primaire, puisque par définition, les enfants, eux, ne peuvent pas être vaccinés, donc ils ne sont pas protégés.
Et ils ne porteront pas de masque dans la cour de récréation.
Et donc, voilà, il faut prendre des mesures pour sécuriser de telle sorte que l'école puisse se dérouler le plus normalement possible.
Lesquelles, alors ?
Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aération, mesure du CO2, aération... système d'aération avec des filtres HEPA, parce que c'est ceux-là qui sont efficaces, et des tests salivaires répétés. Ouais. Et donc, ce n'est pas 600 000. Rien que si on prend le primaire, vous voyez, c'est 10
semaine.
Fois ça. Quoi.
Ouais, ouais, il faudrait tester chaque semaine, selon vous. Restez avec nous. On a en ligne une directrice d'école.
Tous les travaux montrent ça. Et comme je le rappelais tout à l'heure, c'est aussi ce qui est écrit dans le rapport du Conseil scientifique qui a été publié ce matin.
On termine une séquence avec Vanessa qui nous appelle au 3210, qui est directrice d'école élémentaire, qui partage aussi, je crois, vos inquiétudes. Dominique Costagliola, la directrice en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Vanessa.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Vous vouliez insister notamment sur la vaccination des enseignants parce que vous êtes directrice d'école. Alors, le ministre dit que 90% des enseignants sont vaccinés. C'est difficile à vérifier comme chiffre parce qu'il y a le secret médical. Ce n'est pas le cas chez vous ?
Disons que c'est difficile. Personne ne dit vraiment s'il est vacciné, pas vacciné. C'est la parole, en fait. Pour ma part, je suis vaccinée. J'ai des collègues vaccinés. J'en ai d'autres qui ne le sont pas et qui ne veulent absolument pas. Donc, la vaccination des enseignants, comment être sûr que tout le monde soit vacciné ou au moins 90%? Et je rejoindrai surtout votre invité sur le protocole. Alors, c'est très bien, on l'a eu en avance. On a pu commencer à étudier, préparer pendant l'été. Ça, c'est très bien. Par contre, comment on passe du niveau 2 au niveau 3? À quel moment les équipes enseignantes seront préparées ou informées pour justement modifier, puisque ça suppose des modifications, et parfois des modifications importantes, selon les locaux,
Et ça, c'est une vraie question,
en fait.
Et vous l'avez souligné aussi, Dominique Costagliola. On va s'arrêter là, malheureusement, parce que le temps est compté. Mais c'est vrai que ce matin, Jean-Michel Blanquer a détaillé des critères qui ne permettent pas, en tout cas, pour nous les journalistes, pour vous les médecins, de savoir précisément quand on va activer un autre levier, un autre niveau.
Et si j'ai le temps, juste un mot sur la vaccination, c'est pas que les enseignants, parce que dans les écoles, il n'y a pas que les enseignants qui interviennent. Il y a des ATSEM, il y a les personnels à la cantine, il y a etc. Et c'est pas avec un sondage, puisque c'était basé sur un sondage, les données qu'il a données, qu'on va pouvoir déterminer, y compris au niveau départemental, s'il n'y a pas des disparités suivant les régions qui pourraient inciter à faire des mesures différenciées en fonction de ça.
Merci beaucoup Dominique Costagliola d'avoir été notre invité ce soir sur RTL, vous l'épidémiologiste de référence. Merci à Vanessa pour son coup de fil depuis la Seine-Saint-Denis où elle est directrice d'école à 6 jours de la rentrée après l'intervention de Jean-Michel Blanquer ce matin sur RTL. Petite pause et on se retrouve dans un instant avec la folie Messi à Reims dans les dessous de l'actu.
RTL Soir, Julien Cellier.
Bonne fin de journée, 18h32.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Allez, tous les jours à cette heure-ci dans RTL Soir, on vous emmène, on vous fait découvrir les dessous de l'actu. Et ce soir, Reims, capitale du monde du foot. Dimanche soir, Lionel Messi devrait y faire ses tout premiers pas sur une pelouse de Ligue 1. C'est évidemment un événement planétaire. Les billets se sont arrachés, les journalistes des quatre coins du globe affluent, effervescence en champagne, vous me passerez l'expression. Bonsoir Dimitri Ramelot.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous êtes au cœur de cette agitation pour RTL, événement, on l'a dit, XXL. international, c'est vraiment marquant. Hein.
Oui, le signal vidéo international sera repris en direct dans 208 pays. Pas le droit à l'erreur, donc, pour la Cité des Sacres et son maire, Arnaud Robinet.
Premier match de Messi sur un terrain français, sur une pelouse française à Delaune. C'est l'événement de cette rentrée 2021. Il peut y avoir un peu de stress, d'inquiétude, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, que ce soit en termes de sécurité, en termes de mobilité, l'accès au stade et autres. Mais en tout cas, les services de la ville de Reims, police municipale, police nationale, les services de l'État ont aujourd'hui l'expérience. Donc non, il faut prendre ça de façon stimulante, c'est grisant, et dire que voilà, dimanche, Reims sera au centre du monde, au centre de la planète foot.
Alors l'organisme chargé des accréditations a reçu 150 demandes de médias français et internationaux. Problème, 85 places seulement disponibles en tribune de presse. Impossible donc de satisfaire tout le monde. La ville de Reims avait déjà accueilli des matchs de la Coupe du Monde féminine. Zlatan et David Beckham, qui venaient d'arriver au Paris Saint-Germain, avaient également provoqué un énorme engouement, mais rien comparé à ce qui se passe ici depuis une semaine.
Alors forcément, on l'a dit, tout le monde rêve d'assister à la rencontre. On imagine, Dimitri, que les sésames sont rares.
Inexistants même. La vente des places avait commencé doucement début août. Puis, lorsque la venue de la star mondiale à Reims s'est précisée, le club a dû faire face à un raz-de-marée. Autant de billets vendus en 4 jours qu'en 3 semaines. Alexandre Janin est responsable billetterie du stade de Reims.
Dès les premières rumeurs du week-end, la billetterie en ligne a explosé et les gens ont commencé à acheter des billets dès ce moment-là. Ouais. Tous les continents, on a du Chili, on a des gens qui viennent de Thaïlande, d'Inde, de Corée. C'est jamais vu dans ces proportions-là, en effet. Ouais. Là, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu remplir deux fois de l'aune, donc ouais, c'est assez exceptionnel.
Total, 20 546 places vendues, capacité 100%, car les loges ont aussi été prises d'assaut par des entreprises qui ont voulu devenir partenaires sur ce match, mais le club ne souhaite que des abonnements à l'année, qui sont tous partis. Une manne financière énorme donc pour le stade de Reims.
Pour ceux qui n'ont pas de ticket, c'est système D du coup pour voir Messi de ses propres yeux.
Ah oui, seule possibilité dans un premier temps pour trouver une place après la fermeture de la billetterie. Le marché parallèle, autrement dit, le marché noir. Et des annonces ont fleuri sur des sites de vente entre particuliers, des sites d'enchères ou sur les réseaux sociaux avec parfois des prix inabordables. Jean-Pierre a revendu 3 billets achetés 31 € pièce.
J'ai mis un tweet, j'ai eu une dizaine de demandes quand même. On a revendu une à un Rémois, 40 €. Et après, j'en ai vendu une à 130 € à un supporter parisien. Et ma dernière, elle est partie hier à 180 € aussi pour un supporter parisien. 6 fois le prix. Pas d'état d'âme.
Et pour éviter le marché noir, le club a ouvert une plateforme de revente légale de places. Alors, les propriétaires fixent librement le prix. Le club perçoit une commission, mais garantit l'unicité du billet. Ouais. Aucun risque donc pour l'acheteur. Certaines places ont été proposées 1 000 €.
1 000 €, rien que ça. C'est incroyable, vraiment, la folie Messi à Reims. Merci Dimitri Ramelot de nous avoir plongé dans cette effervescence. Reims PSG, les grands débuts du Cétup, le Ballon d'Or en France. Ce sera donc à 20h45. Dimanche soir, et ce sera évidemment sur RTL. Merci Dimitri.
Bonsoir à tous.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h36.
Laissez-vous tenter, dernière.
Vous en avez pris l'habitude depuis le début de la semaine, c'est votre nouveau rendez-vous culture, les bonnes idées de la bande de LVT, les idées musique, ciné, lecture, télé, pour occuper vos soirées et votre week-end. Là, forcément, on va parler télé avec vous, Isabelle Morini-Bosque, bonsoir.
Bonsoir.
On a un petit peu du mal à s'y retrouver par rapport à d'habitude dans le programme télé du week-end. Koh-Lanta, avant c'était le vendredi, maintenant c'est le mardi. Mm-hmm. Danse avec les stars, c'était le samedi, c'est le vendredi. Et ce soir, il y a Game of Talents, dont on ne voit pas trop ce que c'est sur TF1 toujours.
Oui. Alors ce qui sera encore plus grave, c'est qu'on ne voit toujours pas ce que c'est après la diffusion. Oui. Mais vous avez raison. Alors en bon français, Game of Talents, petit un peu prétentieux, c'est un concept dans lequel des célébrités doivent trouver le talent caché de l'artiste qui se trouve en face d'eux.
D'accord.
Dresseur de migales, canon humain, cascadeur. C'est sympa, mais si vous trouvez au programme un petit air déjà vu, je ne peux pas vous donner complètement tort. Le plus, c'est que c'est présenté par Jarry, qui est un homme extrêmement fin et attachant. Et quand vous dites, à juste titre, que la semaine est étrange, ça vaut aussi pour les fictions, parce que démarre ainsi ce soir sur la 2 la 9e saison inédite du polar Candice Renoir, alors que traditionnellement le démarrage est fin septembre, c'est-à-dire un mois et demi plus tôt. Candice et Cécile Bois, elles redoutent un peu ce démarrage estival, et je fais tronc commun avec elles, tronc bois. On en reparlera vendredi prochain.
L'émission à ne pas rater pour vous ce week-end, c'est Zone Interdite dimanche sur M6.
Alors Julien, il faut que vous colliez vos enfants devant ce programme par la force si elle le faut.
D'accord.
Parce que ça, c'est une émission de service public, une émission avec mission. Elle est consacrée à Beauval, le Carlton des parcs zoologiques. Faut pas oublier les autres. Hein. On ne soulignera jamais assez le rôle essentiel des parcs et des réserves pour préserver les espèces sauvages qui sont toutes menacées. Vous savez, les animaux ne se reproduisent que s'ils sont bien. Bien dans leur peau, bien dans leurs os. Or, Beauval compte 900 naissances par an. On revoit et on revit évidemment la grossesse de la panda One-One, de la fécondation à la naissance, que nous avait fait vivre Christian Panvert la nuit. Ça avait été formidable. Mais le génie de ce documentaire, c'est vraiment de nous immerger dans leur quotidien, tous soignants et soignés. Tiens, essayez de trouver de quel animal il s'agit là.
Claire, vous avez une idée peut-être?
Non, une tronçonneuse.
Une tronçonneuse. La fameuse.
Ça trompe.
Je ne pense pas que ce soit ça.
Ça trompe. Et ben justement, à propos de trompe, il s'agit de l'éléphant qui ronronne quand on lui soigne les pattes, ça lui fait les pieds. Alors je suis extrêmement vexée parce que moi j'ai fait de la pédicurie à l'éléphant de Thoiry, monsieur. Et ben il n'a pas ronronné.
Il a pas ronronné.
Ça me vexe beaucoup.
Ben,
c'est mon secret défense.
Il va falloir progresser, chère Isabelle. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils télé du week-end. On marque une petite pause, les amis. Avant, on défait les régions dans RTL Soir chaque vendredi. Ça, c'est nouveau à vous proposer. 20 minutes informatives, positives, curieuses, gourmandes aussi. J'espère que vous aimez déguster de bons petits plats, Claire. Voilà, tout ça va se dérouler tout près de chez vous avec nos reporters aux quatre coins de la France. A tout de suite. On va notamment prendre dans un instant de sacrées leçons de courage à Marseille et dans le Var. A tout de suite.
On défait nos régions. C'est dans un instant sur RTL.